Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
L'homme que vous allez entendre est un journaliste extrêmement influent aux États-Unis. Ses livres se vendent à des millions d'exemplaires. Son podcast est extrêmement populaire et il s'est fait connaître avec un ouvrage intitulé The Tipping Point aux États-Unis. Un ouvrage invoquant les modèles épidémiologiques pour comprendre la société, donc un sujet effectivement d'actualité. Son dernier livre s'intitule Quiproquo en français. Il vient d'être traduit aux éditions Kero. Bonjour Malcolm Gladwell.
Bonjour.
Vous êtes ancien journaliste au New Yorker, écrivain et, comme je l'ai dit, probablement l'un des journalistes, sinon le journaliste le plus connu des États-Unis. Votre livre s'intitulait Talking to Strangers, qui veut dire Maître Zlotowski.
Parler aux étrangers.
Mais en français, il est traduit par Quiproquo, savoir décrypter rapidement un inconnu aux éditions Kero. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle aux États-Unis, notamment les suites de la mort de George Floyd?
Well, this has been a long time coming.
Eh bien, c'était attendu depuis longtemps.
Things have been happening for not just decades, but for centuries in the United States.
Ça ne fait pas des décennies que les choses comme ça se produisent. Ça fait des siècles.
Vous
savez, j'ai écrit un livre sur un noir qui était abattu par la police dans Blink. J'en ai parlé aussi dans mon second livre, David et Goliath, et j'en parle aussi dans l'ouvrage qui vient d'être publié ici en France, qui s'appelle Quiproquo, sur la façon dont il y a eu une rencontre explosive entre un policier blanc et une jeune femme noire. Même dans mon propre travail, je sens que je reviens sans cesse sur le métier. Et avec George Floyd, on a atteint un point de bascule. Soudain, les gens en ont eu assez. Il y a une sorte de sentiment qu'il faut véritablement avoir une conversation sérieuse maintenant sur la façon de régler ce problème.
Justement, qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de régler ce problème avec Donald Trump à la Maison Blanche, Malcolm Gladwell?
No, I don't think that leadership in this case is going to come from Washington.
Je ne pense pas que le leadership vienne de Washington dans ce cas précis.
Mayors of cities and local
les maires des villes, les chefs de police locaux, c'est à eux de faire les choses.
They're the ones who are going to have to take the lead.
C'est à eux de prendre la direction des affaires. Ça ne viendra certainement pas de la Maison Blanche.
Dans votre dernier livre intitulé « Quiproquo », la question que vous posez, Malcolm Gladwell, consiste à savoir si l'on peut faire confiance à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un chef politique ou bien d'un individu inconnu. Peut-on faire confiance à Donald Trump?
En fait, le problème que j'expose dans mon livre Quiproquo, c'est le problème de la vérité par défaut. On tente à croire les choses que les gens nous disent. Mais en fait, le problème avec Donald Trump, c'est que ce qu'il dit, il le pense sincèrement, mais c'est des imbécilités ou c'est des choses qui sont véritablement dites de façon malveillante.
Alors, justement, pour revenir à l'actualité douloureuse de ces derniers temps, dès le début de votre ouvrage, Quiproquo, Malcolm Gladwell, vous revenez sur une affaire de contrôle policier qui tourne mal, l'affaire Sandra Bland. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était Sandra Bland et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce contrôle tourne mal et devienne un drame?
This was a routine traffic stop. So a police officer pulled over
a young woman. Une interpellation de routine. C'est un policier blanc qui demande à une conductrice noire de s'arrêter au bord de la route. Il l'a fait stopper, c'était dans un petit patelin du Texas, et il l'a fait stopper parce qu'elle n'avait pas utilisé son clignotant pour changer de fil. Il va à la fenêtre de la voiture. Leur conversation, leur discussion tourne vinaigre très rapidement.
And he ends up pulling her from the car,
arresting her. Il finit par la sortir de force de sa voiture et par l'arrêter.
Putting her in prison and then she commits suicide in her cell.
Il la met en prison et elle se suicide dans sa cellule.
And this was one of the
C'était une affaire qui a été traitée vraiment, qui a fait les gros titres à travers tous les États-Unis.
And what was Unusual about it is that
ce qui était inhabituel,
their entire encounter was recorded.
C'est que leur rencontre, entre guillemets, a été enregistrée en vidéo.
So it's possible to go through every word of their conversation.
Donc on peut entendre chaque mot de leur échange
and chart
et de voir exactement où les choses ont mal tourné.
Mais le présupposé qui a fait que ce contrôle s'est très mal passé, pour les policiers, ce présupposé, c'était tout simplement le racisme, Malcolm Gladwell.
It's more complicated than that.
C'est beaucoup plus complexe que ça.
That's a powerful element.
C'est un élément de poids, bien sûr.
But one of the fundamental arguments in the book
Mais
was
un des arguments de base dans le livre,
you can't just use
c'est que
the racism of the individual
on ne peut
officer.
Pas utiliser simplement le racisme de ce policier
to explain what happened, because,
pour expliquer ce qui s'est passé.
Because he was trained, he is part of a,
il a été formé.
A movement in American law enforcement.
Il fait partie d'un mouvement dans les forces de police qui forme les policiers à interpréter des situations ordinaires avec énormément de suspicion, de présupposer que les gens avec un certain profil sont en train de commettre des actions criminelles.
Justement, ces actions criminelles que vous évoquez, Malcolm Gladwell, il y a dans le système judiciaire américain, dans la manière dont la police se comporte, toute une série de choses qui reposent sur une mauvaise compréhension de l'autre, une impossibilité de communiquer. Bref, on a l'impression que il y a véritablement une révolution à faire pour que les affaires tragiques de ces derniers jours cessent d'être le quotidien de la plupart des villes américaines.
Yeah, no, I think one of the conclusions from my book Talking to Strangers.
Une des conclusions de mon livre Quiproquo, c'est que il ne s'agit pas d'une poignée de policiers racistes. On a à faire face à un système qui a été conçu pour arriver à ces choses-là. Il faut véritablement s'occuper du système, pas des individus.
Malcolm Gladwell, dans votre dernier livre, vous nous expliquez que la plupart des individus ont tendance à partir du principe que les personnes à qui elles ont affaire sont honnêtes. C'est quand même assez surprenant, parce qu'on a plutôt l'impression que ce qui prédomine dans la société, c'est la méfiance.
No, you know, the fundamental fact about
non, le fait fondamental sur l'être humain,
we evolved on the basis of our ability to trust each other.
Évolué grâce à notre capacité d'avoir confiance l'un dans l'autre. C'est ce qui différencie l'espèce humaine des autres espèces. La raison pour laquelle nous avons pu coopérer de façon aussi réussie que nous le voyons et construire nos sociétés, c'est que implicitement, nous faisons confiance.
Bon, mais alors quand on prend par exemple un Bernard Madoff, on lui a fait confiance facilement à cet escroc?
Yes, all of us are trusted.
Oui.
Easily. I mean, think about this conversation.
On nous fait confiance facilement. Ben, la conversation que j'ai avec vous, par exemple.
How are you certain that I am?
Comment êtes-vous certain que
calling me from?
Je suis là où je dois être. Et comment puis-je savoir que vous m'appelez à partir d'une radio célèbre française? Vous prenez ce que je dis pour argent comptant, et moi aussi. C'est comme ça qu'on fait. Et il y a un nombre extraordinaire d'interactions qui sont produites ainsi. Et c'est pour ça que le monde fonctionne. Mais bon, il y a un autre côté. Cette confiance est occasionnellement trahie.
Alors, dans ces conditions, comment Bernard Madoff a-t-il finalement été démasqué comme un escroc?
Well, remember, he turned himself in. He was never unmasked.
Il n'a jamais été démasqué. C'est lui qui est allé se dénoncer. Il s'est rendu aux autorités. C'est extraordinaire. Pendant 25 ans, Madoff a véritablement mené une escroquerie monstrueuse. Personne ne l'avait découvert. Et tout le monde continuait à le croire, à lui faire confiance jusqu'au moment où il s'est livré aux autorités avec cette histoire de Ponzi, de construction de Ponzi, cette pyramide de Ponzi.
Finalement, ce qui vous intéresse, Malcolm Gladwell, dans vos différents livres, depuis le premier, The Tipping Point, qui étudie les phénomènes de diffusion, de contamination d'une idée au sein de la société, ce qui vous intéresse, ce sont tous les processus inconscients qui nous font agir.
I'm more and more impressed.
Je suis de plus en plus impressionné.
For human behavior are hidden.
Par les faits que les motifs des actions humaines sont cachés. Alors que le reste du monde oublie Freud, moi je reviens à lui, je reviens vers lui.
Qu'est-ce qui vous a fait justement y revenir? Pourquoi finalement tous les livres de Malcolm Gladwell s'intéressent à des choses que l'on ne perçoit pas? Dans Blink, par exemple, vous expliquez comment le génie, c'est cette intuition qu'on n'a pas forcément. Dans Outliers, vous racontez comment finalement il y a une part de contingence dans la réussite qu'on n'arrive pas à mettre en équation.
Because I've come back to Freud, because Freud was someone who did not take our explanations for our own behaviors and emotions at face value.
En fait, je reviens vers Freud parce que lui ne croyait pas ce qu'on disait directement. Les motivations, nos vraies motivations sont obscures. Et il faut travailler pour les découvrir. Et ça va très bien avec ce que la psychologie moderne nous enseigne. Les êtres humains ne sont pas simples. Il faut comprendre
those complications and detours,
les complexités, les détours de l'être humain, si on veut comprendre le comportement humain. Donc conceptuellement, je suis freudien. Je ne suis pas freudien dans tous les détails, mais cette idée générale que les êtres humains nécessitent une interprétation, contre-intuitive d'ailleurs.
Alors, Freud ne faisait pas du tout confiance aux êtres humains.
Ce sont deux problèmes séparés. Freud pensait que les êtres humains avaient besoin d'explications. Il ne croyait pas une analyse superficielle de la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait. C'est quelque chose de différent de la question fondamentale. Est-ce que vous êtes en interaction avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une présomption de vérité, de confiance? Il y a une impulsion de l'évolution. Et dans l'autre situation, c'est une contingence de la situation de Freud.
C'est-à-dire, finalement, vous considérez que les êtres humains sont mus par des instincts qui les dépassent, quasiment des instincts qui appartiennent plus à l'espèce qu'à eux-mêmes?
Yes, I think that, you know, what the astonishing thing, I think it's, we're only now coming to grips with this, is
la chose étonnante, et nous commençons à le comprendre,
human beings are,
c'est
or how unwilling they have been to examine their
à quel point les êtres humains ont été, comment dire, réticents à examiner leurs interactions quotidiennes. Dans mon livre, Quiproquo, j'explique à quel point nous sommes mauvais pour déterminer si les gens nous mentent. Nous avons un nombre de techniques pour étudier la tromperie, mais on prend pour acquis qu'il suffit de regarder l'expression du visage pour déterminer si quelqu'un nous ment ou pas. Mais c'est pas vrai. Je suis étonné. Après des centaines de milliers d'années d'évolution humaine, on est encore tellement mauvais à déterminer si quelqu'un nous ment ou pas. J'aurais pensé qu'on serait nettement meilleur de ce point de vue-là.
Ce qui veut dire que finalement, les juges, lorsqu'ils décident de libérer un détenu, eh bien, seraient peut-être remplaçables ou devraient être remplacés par, je ne sais pas moi, des ordinateurs.
I talk in Talking to Strangers about how judgments about
Je discute effectivement dans mon livre Quiproquo si quelqu'un devrait être libéré sous caution. Les gens nous disent que, les chercheurs, les sociologues nous disent que un ordinateur ferait un travail beaucoup plus sérieux que les juges, parce que les juges regardent le visage des gens, par exemple. La différence entre l'intelligence artificielle et les humains, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a, aucune comparaison possible. Il faut être beaucoup plus honnête. En tout cas, beaucoup plus ouvert à reconnaître à quel point le jugement humain est erroné.
La période que nous traversons, Malcolm Gladwell, je veux parler de la pandémie, est une période qui met sévèrement en tension notre capacité à faire confiance aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je le dirais différemment. La pandémie a exigé de nous que nous faisions confiance aux autres plus que par le passé. Ma sécurité dépend du fait que vous soyez, que vous fassiez attention. Il faut que je fasse confiance aux autres en pensant qu'ils observent les mesures qu'il faut prendre pour éviter la contagion. Donc, si vous voulez, ça nous fait revenir au point auquel il est important de coopérer et de faire confiance les uns aux autres. Nous avons tous confiance dans la volonté des autres à faire attention pour éviter la propagation de la pandémie.
Que vous a-t-elle inspiré cette pandémie, la manière dont l'État américain a géré cette pandémie, la manière dont la ville de New York, puisque vous habitez New York, Malcolm Gladwell a tenté de lutter contre cette maladie.
You know, the thing about the American response is that it is the response is governed by is governed locally.
Américaine a été locale. Ce sont les maires, les gouverneurs des États. Ce n'est pas venu du niveau fédéral, Washington, donc. Donc il y a des variantes énormes à travers les États-Unis. San Francisco a réagi très très tôt, de façon intelligente. À New York, on a été un peu en retard. Mais si vous allez à New York aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde a un masque. Et dans d'autres endroits des États-Unis, personne ne porte un masque. Tout dépend de l'endroit où vous êtes.
Mais alors, ce qui est extrêmement étonnant, Malcolm Gladwell, c'est que votre premier ouvrage, The Tipping Point, portait sur la manière dont un certain nombre de comportements ou de lois, par exemple la lutte à New York contre le crime, était, comment dirais-je, compréhensible au travers de modèles épidémiologiques.
It's funny how I've spent my entire career talking about epidemics.
J'ai passé toute ma carrière à parler des épidémies et des violences policières. Et puis voilà, les deux se produisent en même temps. J'ai utilisé le modèle épidémiologique pour décrire la propagation du crime. Et je continue de croire que c'est un modèle extrêmement utile pour comprendre la contagiosité du comportement humain.
Alors, par exemple, dans ce livre, vous évoquiez la manière dont la tolérance zéro ou la théorie de la vitre cassée avait été performante pour lutter contre le crime à New York.
That's an argument I made in Tipping Point, and I think that at the time, no one truly understood the implications of that approach to fighting crime.
Vous savez, cet argument, il est dans Tipping Point. À l'époque, personne ne comprenait cette approche. Mais aujourd'hui, je n'écrirai plus la même chose. Mes positions ont changé de façon assez fondamentale au cours des 20 dernières années.
Pourquoi? Expliquez-moi, parce que justement, l'Amérique était citée en exemple en France parce que l'on disait que la réduction du crime venait du fait que la police, les autorités avaient été intraitables. Pourquoi avez-vous changé d'avis?
That aspect, because I believe that idea, although I think it had at its core was a sound one.
L'idée, alors qu'elle était bonne au départ, en son cœur, a été utilisée dans des situations où elle n'était plus appropriée, a été menée trop loin, a été utilisée comme mesure de harcèlement contre des populations minoritaires. Ce qui avait débuté comme quelque chose qui avait été créé de bonne foi pour réduire la criminalité a été transformé en instrument de pression sociale. On ne l'a pas vu venir, mais c'est ce qui s'est produit au cours des dernières années.
Pourquoi les États-Unis n'arrivent-ils pas à se sortir de la question de la race ? Pourquoi est-ce aujourd'hui véritablement le premier problème qui obsède l'Amérique, Malcolm Gladwell ?
Well, I've forgotten who, but very famously, someone said.
Quelqu'un de célèbre a dit.
That slavery was the original sin.
L'esclavage a été le péché original des États-Unis d'Amérique.
At the moment of the country's founding,
au moment de la fondation du pays, cette question n'a pas été traitée. On s'en est accommodé. Et je pense que le pays ne s'est jamais guéri de cela. Il n'y a jamais eu véritablement d'institution qui traite à bras le corps ce problème. C'est un héritage qui est resté. À ce jour, nous luttons contre l'ombre très longue qui a été laissée par l'esclavage. Et la mort de George Floyd est un des phénomènes qui est dû à cette ombre très très longue jetée par l'esclavage.
Il faut dire aussi qu'on fait un peu le même métier, Malcolm Gladwell, puisque depuis 2016, vous êtes l'auteur d'un podcast nommé Revisionist History. Pourquoi avez-vous décidé de faire de la radio, vous aussi ?
I started out just because I wanted to experiment with a new form, new media.
Je voulais expérimenter ce nouveau média. Et j'en suis tombé amoureux. Il y a une différence dans la façon de raconter l'histoire quand on utilise l'audio. Le storytelling, le récit est beaucoup plus émotionnel. J'étais très intéressé par le fait de raconter ces histoires de façon plus émotionnelle, alors que l'imprimé est mieux équipé pour l'analyse.
I'm less inclined towards at this point in my career.
Eh bien, à ce point de ma carrière, je suis moins enclin à l'analyse qu'à l'émotion.
Comment vous travaillez pour votre prochain livre ? Comment ça se passe, Malcolm Gladwell ? Parce qu'il faut dire que chacun de vos livres est un événement, qu'il se vende à des centaines de milliers d'exemplaires, voire, avec les traductions, à des millions d'exemplaires. Ça se passe comment ?
Je commence par enquêter sur une idée. J'ai pas le livre tout près dans ma tête. Je pars de quelque chose qui m'intéresse.
Et
de façon très déstructurée, j'essaye d'explorer tous les aspects de cette idée. Et je me laisse mener dans toutes les directions vers lesquelles l'idée m'emmène. Je suis toujours prêt à changer mes idées, mes présupposés, mes acquis. Donc, j'essaie de commencer avec une table rase et j'essaie de voir où l'idée et où les preuves me mènent.
Deux dernières questions, Malcolm Gladwell. Est la première, je vous ai présenté comme un ancien journaliste. Je ne sais pas si c'est ainsi que vous aimeriez être présenté, mais quel regard portez-vous sur les médias américains aujourd'hui ?
Well, it's, I don't think I'm saying anything.
Je ne vais pas dire quelque chose d'inouï, mais nous sommes dans un processus de décentralisation rapide.
Qui
était un système contrôlé par certains organes dominants, très prestigieux. Maintenant, ça se brise en milliers de morceaux. La puissance quitte le centre vers des individus sur des plateformes indépendantes. Et on ne comprend toujours pas exactement comment ça fonctionne. Moi, je produis mon podcast avec 25 personnes et on touche des millions de gens. Imaginez, une organisation créée il y a un an et demi avec 25 personnes et il y a eu des centaines de millions de téléchargements. C'est vraiment quelque chose de fascinant sur la vie moderne.
Et ma dernière question, Malcolm Gladwell, est-ce que vous faites facilement confiance aux gens ?
Yes, I am the most trusted of all.
Je suis quelqu'un qui fait le plus confiance aux gens.
are more trusting than I am.
Je pense que oui, c'est le cas.
Vous avez eu raison, en tout cas, de nous faire confiance. Merci beaucoup, Malcolm Gladwell, de nous avoir accordé de votre temps. C'était bien Michel Zlotowski et moi-même qui vous parlions pour France Culture.
I hope you did well as well. Thank you so much.
Bonne journée.
Bye bye, au revoir.